Son premier geste fut pour désigner à la reine le siège préparé à la droite du sien. L'église était comble. Philippe n'apercevait qu'une mer de couronnes, d'épaules brodées, de joyaux, de chasubles étincelants sous les cierges. Un firmament humain s'étendait à ses pieds. Il ramena son regard vers de plus proches parages et tourna la tête à droite et à gauche pour distinguer les présences sur l'estrade. Charles de Valois était là, et Mao d'Artois, monumentale, ruisselante de brocart et de velours. Elle lui sourit. Louis d'Évreux se tenait un peu plus loin. Mais Philippe n'apercevait pas Charles de la Marche, ni non plus Philippe de Valois, que son père semblait également chercher des yeux. L'archevêque de Reims, Robert de Courtenay, alourdi par les ornements sacerdotaux, se leva de son trône qui faisait face au siège royal. Philippe l'imita et vint se prosterner devant l'autel. Tout le temps que dura le Te Deum, Philippe se demanda « Les portes ont-elles été bien fermées? Mes ordres ont-ils été fidèlement suivis? Mon frère n'est pas homme à rester au fond d'une chambre pendant qu'on me couronne. Et pourquoi Philippe de Valois est-il absent? Que me prépare-t-il? J'aurais dû laisser Galard dehors pour qu'il soit mieux à même de commander ses arbalétriers. » Or, tandis que le roi s'inquiétait ainsi, son frère cadet pataugeait dans un marais. En sortant, furieux de la chambre royale, Charles de la Marche s'était précipité au logement des Valois. Il n'avait pas trouvé son oncle, déjà parti pour la cathédrale, mais seulement Philippe de Valois, qui achevait de se préparer auquel il avait compté hors d'haleine ce qu'il appelait la félonie de son frère. Fort liés, parce que fort proches par leur goût et leur nature, les deux cousins s'entendaient bien à se monter réciproquement la tête. « S'il en est ainsi, je n'assisterai pas non plus au sacre. Je pars avec toi !» avait déclaré Philippe de Valois, avec la satisfaction d'affirmer une indépendance à l'égard du roi, de la cour et de son propre père. Là-dessus, de rassembler leurs escortes et de se diriger fièrement vers une porte de la ville. Leur superbe avait dû s'incliner devant les sergents d'armes. « Nul n'entre ni ne sort. Ordre du roi !»
« Même les princes de France ?»«
Même les princes, ordre du roi !»«
Ah, il veut nous contraindre !»
s'était alors écrié Philippe de Valois, qui maintenant prenait l'affaire à son compte.
« Eh bien, nous sortirons quand même !»«
Comment veux-tu, puisque les portes sont closes ?»«
Feignons de rentrer à mon logis, et laisse-moi agir !»
La suite ressemblait à une équipée de gamins. Les écuyers du jeune comte de Valois avaient été dépêchés à chercher des échelles, vite dressées dans le fond d'une impasse, en un endroit où les murs ne semblaient pas gardés. Et voici les deux cousins faits en l'air partis à l'escalade, sans se douter que de l'autre côté s'étendaient les marécages de la Velle. Par corde, ils descendirent dans le fossé. Charles de la Marche perdit pied au milieu de l'eau boueuse et glacée. Il s'y fut noyé si son cousin, qui avait 6 pieds de haut et les muscles solides, ne l'eût à temps repêché. Puis ils s'engagèrent comme des aveugles dans les marais. Il n'était plus question pour eux de renoncer. Avancer ou reculer revenait au même. Ils jouaient leur vie et en auraient pour 3 grandes heures à se tirer de ce bourbier. Les quelques écuyers qui les avaient suivis barbotaient autour d'eux et ne se gênaient pas pour les maudire à haute voix.
« Si jamais nous sortons de là !»
criait la marche pour soutenir son courage.
« Je sais bien où j'irai ! Je sais bien ! À Château-Gaillard !»
Philippe de Valois, ruisselant de sueur malgré le froid, montra une tête stupéfaite au-dessus des roseaux pourrissants.
« Tu tiens donc encore à Blanche ? » demanda-t-il.
« Je n'y tiens point, mais j'ai des choses à savoir d'elle. Elle est la seule, elle est la dernière à pouvoir nous dire si la fille de Louis est bâtarde et si mon frère Philippe a été cocu comme moi. Avec son témoignage, je pourrais honir mon frère, à mon tour, et faire donner la couronne à la fille de Louis. »
Le son des cloches de Reims, battant à toute volée, parvenait jusqu'à eux.
« Quand je pense que c'est pour lui qu'on sonne !»
disait Charles de la Marche, la moitié du corps dans la boue et la main tendue vers la ville. Dans la cathédrale, les chambellans venaient de dévêtir le roi. Philippe le Long, debout devant l'autel, n'avait plus sur le corps que 2 chemises superposées, l'une de fine toile et l'autre de soie blanche, et largement ouverte sur la poitrine et sous les aisselles. Le roi, avant d'être investi des signes de la majesté, se présentait à l'assemblée de ses sujets comme un homme presque nu et qui frissonnait. Tous les attributs du sacre étaient déposés sur l'autel, à la garde de l'abbé de Saint-Denis, qui les avait apportés. Adam Héron prit des mains de l'abbé les chausses, longs caleçons de soie brodés de fleurs de lys, et aida le roi à les passer ainsi que les chaussures, également d'étoffes brodées. Puis Anceau de Joinville, en l'absence du duc de Bourgogne, noua les éperons d'or aux pieds du roi et les enleva aussitôt. L'archevêque bénit la grande épée qu'on prétendait être celle de Charlemagne et, la soulevant par le baudrier, la pendit au flanc du roi en récitant « Accipe unc gladium cum Dei benedicione ». Messire connétable, approchez, dit le roi. Gaucher de Châtillon s'avança et Philippe, se défaisant du baudrier, lui remit l'épée. Jamais connétable, dans toute l'histoire des sacres, n'avait mieux mérité de tenir pour son souverain l'insigne de la puissance militaire. Ce geste, entre eux, était plus que l'accomplissement d'un rite. Ils échangèrent un long regard. Le symbole se confondait avec la réalité. De la pointe d'une aiguille d'or, l'archevêque prit dans la sainte ampoule que lui tendait l'abbé de Saint-Rémy une parcelle de cette huile qu'on disait envoyée du ciel et la mêla de son doigt avec le crème préparé sur une patène.